L'interview.
Bonjour, rebonjour.
Bonjour.
Donc Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, enfin auprès du ministre des Affaires étrangères, des Français de l'étranger, du tourisme et de la francophonie. Et j'ai oublié l'Europe au début. Donc de l'Europe, des Affaires étrangères. Merci d'accepter notre invitation. Alors,
vous
écoutiez le directeur général de la santé militaire et qui est depuis 24 heures peut-être enfin désigné par le président de la République en tant que à la tête de la gestion de cette crise sanitaire, du moins par le président de la République, et qui vient de vous féliciter pour ce don justement. Et je commence avec ça, je rebondis, donc vous n'arrivez pas les mains vides. Et vous arrivez avec un don de deux vaccins et d'oxygène.
Oui, tout à fait. Le président de la République, Emmanuel Macron, a souhaité mettre en place cette vaste opération de solidarité, justement en soutien au peuple tunisien, parce que nous sommes tous confrontés depuis 15 mois à cette pandémie, mais on voit aussi aujourd'hui une vague particulièrement impressionnante avec ce variant Delta, avec sa contagiosité. Et très clairement, nous ne pouvions pas rester insensibles à la détresse qui s'exprimait. Et c'est pourquoi, en 5 jours, la France aura acheminé effectivement plus de 1 100 000 vaccins. Et notamment, sont arrivés cette nuit 500 000 vaccins de Janssen. J'insiste sur cela parce que il suffit d'une seule dose et vous êtes protégé. Donc ça permettra de faire monter en charge très rapidement, naturellement, le nombre de vaccinés ici, parce qu'on le sait, c'est une course contre la montre, c'est le vaccin contre le variant, contre le virus, et au-delà de ces doses de vaccin, il y a également tout un dispositif d'approvisionnement en oxygène. Là aussi, ça a été très rapide, en quelques jours, grâce à la mobilisation à la fois des moyens militaires français, tunisiens et également du mécénat, je pense à la fondation CMA-CGM par exemple, eh bien, nous avons pu acheminer des conteneurs d'oxygène, nous avons pu livrer également des matériels de production d'oxygène médical. Le Premier ministre Jean Castex les avait fait acheminer tout début juin, et c'est ce qui va permettre, nous l'espérons, eh bien, de soulager la souffrance. Et puis ça se poursuit jusqu'à la mi-août. Eh bien, nous avons pour 38 tonnes d'équipements, de matériel, de masques, etc., de respirateurs qui vont venir. C'est un véritable pont maritime, en fait, qui s'est mis en place. Et je veux remercier d'ailleurs notre ambassadeur, tous les services de l'ambassade qui se sont mis en quatre pour faire en sorte que cette volonté du président de la République, eh bien, elle trouve à s'appliquer dans les meilleurs délais, et que ce soit une vraie réponse pour le peuple tunisien, parce que c'est la France, parce que c'est la Tunisie, pour reprendre ce mot entre Montaigne et la Boétie.
Et justement, vous en parliez, Excellence, son Excellence Parent, donc, qui était notre invité à peu près il y a une semaine de là, il a bien expliqué tout ce qui changeait également par rapport, ça me permet de rebondir sur cette question de zone rouge. Alors, je vous fais le topo dès maintenant par rapport aux questions qui reviennent le plus, parce qu'on interagit avec nos auditeurs, c'est cette question de zone rouge, les gens veulent comprendre un petit peu plus, les vaccins acceptés, et trois, cette question des étudiants, ils sont très nombreux à aller étudier tous les ans en France, donc cette question de vaccination des étudiants. Voilà, donc on va faire ça peut-être en une question. Alors, comment, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est permis, comment accéder à la France sur la prochaine période. Les détails ont été donnés, on peut retrouver ça dans une interview beaucoup plus claire avec son Excellence Parent, mais s'il y a du nouveau entre-temps, les vaccins acceptés, il y aurait, selon certains auditeurs, il y aurait des cas où des personnes arrivées là-bas, enfin, ils ne peuvent pas accéder au pass sanitaire, les vaccins ne sont pas reconnus, enfin, c'est pas que les vaccins chinois, même les vaccins qui sont reconnus en Europe, on a peut-être pas reconnu dans certains cas le papier officiel qui est attribué. Et trois, cette question de vaccination des étudiants, comment ils vont faire? Parce que pour l'instant, ils ne sont pas prioritaires en Tunisie, ils doivent d'ores et déjà partir en France.
D'accord. Bien. Alors, beaucoup de questions, mais peut-être pour revenir, je peux vous dire que le fait de mettre la Tunisie en pays dit rouge, on ne l'a pas fait de gaieté de cœur. En fait, tout ça résulte d'indicateurs sanitaires tout à fait objectifs qui sont pris en compte par ce qu'on appelle le CDC, qui est un organisme européen et qui nous amène à faire ces classements. Mais ça veut dire que rien n'est irréversible et rien n'est irrémédiable. Dès lors qu'on le voit, aujourd'hui, il va y avoir cette montée en puissance de la vaccination. Et donc, nous l'espérons que la courbe puisse s'inverser, la courbe des contaminations, des décès, etc., et que on puisse naturellement, dans les prochaines semaines, les prochains mois, quand la situation sera revenue plus à la normale, eh bien, faire évoluer cette classification. C'est pas impossible, la preuve. Il y a quelques mois, l'Inde était frappée en premier presque par ce variant et qui était très contagieux. L'Inde avait été classée en rouge et ils ont pris la décision il y a quelques jours eh bien, de la faire passer à nouveau en orange parce que voilà, le combat a été mené contre le virus, il a été endigué. Et c'est vraiment tout le vœu que je forme également pour la Tunisie. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de m'en entretenir hier avec le ministre du Tourisme, puisque nous sommes en contact étroit et on voit bien l'impact que ça peut avoir également pour l'économie touristique tunisienne. Mais ce que je veux dire, c'est que nous avons mis également des souplesses par rapport aux conditions de mobilité. Je m'explique, il est possible de voyager sans aucun motif impérieux, donc pour tout motif, y compris de loisirs, depuis la Tunisie ou vers la Tunisie. Il n'y a aucune contre-indication pour les personnes vaccinées. Ça, c'est très important. En revanche, lorsqu'on n'est pas vacciné, effectivement, il y a des précautions additionnelles qui sont demandées, comme les tests, des septaines, etc. Donc, je voulais préciser ça. Déjà, c'est aussi une incitation à aller se faire vacciner. Enfin, c'est valable pour les Français comme pour les Tunisiens. Et puis, par ailleurs, s'agissant du pass sanitaire français. Effectivement, une loi est en discussion. Elle a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale cette nuit. Le Sénat va maintenant s'y pencher pour mettre en place ce pass sanitaire étendu. C'est-à-dire que face à la recrudescence du variant en France, nous avons décidé de faire en sorte que dans un certain nombre de lieux, d'espaces, il faut prouver que soit on est vacciné par un vaccin homologué par l'Union européenne ou équivalent. Et le ou équivalent est important parce que, par exemple, ça prend en compte le Covishield, qui est comment dire, l'AstraZeneca fabriquée parfois dans d'autres continents. Et en Afrique, on a pu se vacciner aussi au Covishield. Donc je le précise, que soit on est vacciné, soit on fait des tests PCR ou antigéniques régulièrement pour pouvoir accéder à ces activités. Nous sommes en train de travailler sur les modalités relatives aux voyageurs internationaux. Une réunion interministérielle se tient à 15 h aujourd'hui même à Paris. Et donc, nous serons en mesure dans les prochains jours de donner le mode d'emploi, si je puis dire, pour les voyageurs internationaux qui se rendront en France et pour pouvoir savoir comment eux, effectivement, peuvent avoir accès à ce pass sanitaire. Et s'agissant de la question des étudiants, elle est très importante parce que c'est ce qui fait aussi, je crois, la densité et l'intensité des relations humaines entre la Tunisie et la France. Beaucoup d'échanges universitaires, et on sait que les étudiants, d'ailleurs, ils ont payé le prix cher dans cette pandémie. Pas de capacité à aller en cours, etc., etc. Souvent, ça a été en distanciel. Donc, il y a le souhait de reprendre cela. Et je veux dire que, d'une part, pour ceux qui sont vaccinés, comme il n'y a plus de motif impérieux pour voyager, ils peuvent voyager vers la France pour étudier. Pour ceux qui ne sont pas vaccinés, je veux les rassurer, puisque avant-hier, en Conseil de défense, le président de la République, le Premier ministre, ont décidé que nous allions travailler à la mise en place d'un protocole pour accueillir les étudiants internationaux qui sont dans cette situation-là. Et donc, on est dessus avec Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, avec le ministre de la Santé, pour pouvoir vous proposer ce protocole. Ça veut dire que dès lors que vous venez étudier, souvent c'est quand même pour plusieurs mois, eh bien, qu'il y ait ce protocole à l'arrivée, avec peut-être quelques jours, je dirais, d'observation, et puis derrière, le fait que eh bien, voilà, vous pouvez naturellement prendre vos activités universitaires, pour prendre un exemple. Donc, je veux être rassurant de ce point de vue-là.
Ça, rassurant, c'est bien, ça c'est en train d'être étudié.
Tout à fait.
Quand est-ce qu'on en saura plus? Parce que c'est imminent.
Dans les tout prochains jours. Dans les tout prochains jours, puisque la décision de principe, elle a été prise avant-hier. Voilà. Et donc maintenant, on en est dans les modalités pratiques, voilà. Mais la décision, elle est claire.
C'est très bien. Là, c'est clair. Il y a une décision de principe. Ils vont être accueillis dans des conditions spécifiques, même s'ils ne sont pas vaccinés. Ensuite, quels sont les détails de ces conditions? Ça va être annoncé dans
Exactement.
Les prochains jours. Voilà. Là, on est très clair. Alors, ces questions de vaccination, je rebondis. On parle d'étudiants tunisiens qui partent en France et on parle de Français installés en Tunisie. Est-ce que ces Français-là vont avoir droit au vaccin? C'est une question qui est arrivée
bien
souvent
sûr.
De binationaux ou de Français
bien
enfin,
sûr,
qui vivent ici,
alors,
qui se demandent est-ce qu'ils vont pouvoir être vaccinés ici. Vous parlez de l'Inde tout à l'heure, vous l'aviez fait en Inde, vous l'avez fait dans deux, trois pays jusque-là. Est-ce que la Tunisie fera partie de ces pays?
Ça me permet de parler de cette communauté des Français établis ici en Tunisie, une communauté très, très riche, 25 000 personnes, dont les trois quarts, effectivement, binationaux, puisque vous y faisiez référence. Une partie d'entre eux a déjà pu se faire vacciner dans le système tunisien. et c'est tant mieux. Et par ailleurs, en complément d'ailleurs de notre aide qui est massive, hein, je le rappelle, c'est ce plus d'un million de doses de vaccins qui est acheminée cette semaine, je suis également venu avec 14 000 doses permettant également de venir proposer cette vaccination aux Français établis en Tunisie. Je serai tout à l'heure à l'Institut français, justement, où s'organise cette vaccination, le début de cette vaccination. Il y a déjà 800 rendez-vous de pris aujourd'hui, 800 pour demain. Donc, il y a une vraie demande. Et le président de la République, depuis le début, a souhaité que les communautés françaises établies hors de France puissent recevoir ce type de soutien. Et en fait, nous avons mis en place cela dans une cinquantaine de pays. Ça va effectivement de l'Inde à Madagascar, en passant par Djibouti, le Tadjikistan, donc voilà, dans de nombreuses géographies. Et d'ailleurs, on va continuer à monter en puissance, puisque nous avons conclu un partenariat avec la société internationale SOS, qui va prendre le relais, parce que jusqu'à maintenant, ce sont nos postes, les ambassadeurs, les consuls, les services diplomatiques, qui ont organisé presque coups humains, si je puis dire, dans tous ces pays, la vaccination. Vous conviendrez que ce n'est pas la mission première d'un ambassadeur, mais voilà, ils sont tout terrain. Je remercie l'action de tous ces agents du service diplomatique qui permettent eh bien, de venir, en complément de la vaccination nationale, proposer cette vaccination aux Français établis hors de France.
Vous avez rencontré hier différents responsables, de président, enfin vous avez rencontré le chef du gouvernement, le ministre de la Santé, etc. Alors, avec quel message vous êtes arrivé, le message certainement d'amitié, de soutien, d'appui que vous avez donné tout à l'heure, d'ailleurs en la présence du directeur général de la santé militaire qui a été désigné, je rappelle, par le président de la République en tant que responsable de la gestion de cette crise. Mais au-delà de ça, quels sont les messages? Et puis, rappelons-le, cette année, c'est l'année où va s'organiser en Tunisie le sommet de la francophonie. Son Excellence Parent le dit tout le temps, la francophonie, c'est pas que la France. Hein, donc aujourd'hui, justement, la France est très impliquée dans ça. Mais la Tunisie est supposée, bien sûr, être aux commandes, c'est normal, pour organiser ce sommet. Les choses se mettent en place, on le voit, on l'a vu ces derniers jours, mais avez-vous évoqué cette thématique avec vos différents interlocuteurs?
Alors, j'étais porteur, avant toute chose, d'un message de solidarité très fort du président de la République, du peuple français. C'est le premier message. Dans ces temps difficiles, je crois qu'il faut se serrer les coudes. C'est tous ensemble qu'on y arrivera. Soit on arrive tous ensemble, soit on échouera tous ensemble face à cette pandémie. Donc ça, c'est ce message très fort. Et puis, naturellement, moi d'ailleurs, c'est l'illustration, en venant ici pour la cinquième fois, je crois, en quelques années, ça illustre aussi, encore une fois, l'intensité des relations entre les autorités, les gouvernements, les peuples. Et donc, nous avons pu aussi faire un point sur tous nos dossiers bilatéraux. Il y a quelques semaines, le 3 et 4 juin, se tenait le HCC, le Haut Conseil de coopération. Et puis, vous l'avez dit, il y a cette perspective au mois de novembre du sommet de la francophonie. C'est un moment important, non seulement pour la Tunisie d'une part, je pense, parce que la Tunisie va être un des pays qui va accueillir une des premières manifestations où, en présentiel, chefs d'État et de gouvernement du monde entier vont se retrouver. Et puis surtout, la Tunisie, elle a été membre fondateur avec Bourguiba de cette francophonie. Et la francophonie, c'est quoi? C'est pas faire en sorte qu'il y ait l'impérialisme d'une langue, la langue française, non. La langue française, sa richesse, c'est qu'elle est désormais, elle a échappé à la France quelque part. Et chacun des États membres l'alimente par son propre vocabulaire, par son rapport au monde. Et donc, c'est, je crois, un véritable outil, d'ailleurs, d'émancipation pour tous les francophones. Regardez ce formidable passeport qu'est la langue française. C'est un véritable passeport pour travailler à l'étranger, pour aimer à l'étranger. Bref, c'est un vraiment, je crois, un outil de liberté fondamentale. Et cette langue française, eh bien, oui, je pense qu'elle peut être promue aux côtés, naturellement, des autres langues nationales, partout dans le monde. Je crois que, quelque part, c'est aussi un éloge à la diversité linguistique dans un monde qui est parfois un peu, je dirais, qui s'uniformise et où la langue anglaise prend parfois le pas ou ce qui ressemble à la langue anglaise, mais qui est en fait plus simplement ce qu'on appelle le globish. Donc les autorités, que ce soit le président de la République, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, m'ont assuré justement de l'engagement des autorités ici pour faire en sorte que ce sommet puisse se tenir dans les meilleures conditions, et ça sera un temps fort, puisque c'était initialement d'ailleurs le sommet du cinquantenaire, c'est-à-dire on célébrait les 50 ans de la création de la francophonie, et ce qui est important, c'est que cette francophonie, ce soit pas juste une construction institutionnelle où chefs d'État et de gouvernement se rencontrent, mais que véritablement ce soit un outil, encore une fois, au service eh bien des peuples. C'est la capacité à étudier, à faire des systèmes d'échange universitaires, professionnels, etc. Bref, que ça soit un élément pour changer la vie en mieux de tous les francophones.
Merci à vous, Jean-Baptiste Lemoine. D'ailleurs, pour cet intérêt que vous évoquiez pour la francophonie, il n'y a qu'à voir les pays qui ne sont pas naturellement francophones, entre guillemets, et qui souhaitent adhérer à cette organisation de la francophonie. Donc ça montre aujourd'hui l'importance, comme vous l'évoquiez, de cette langue qui, j'aime bien pour reprendre vos thèmes, qui a échappé à la France et qui est aujourd'hui un passeport.
Permettez-moi de terminer en disant, parce qu'aujourd'hui, on le voit, il y a de la souffrance, et on a souhaité venir en soutien au peuple tunisien. Mais au bout du bout, c'est la vie qui doit triompher, et c'est la vie qui va triompher. Et ce que je veux dire, c'est un scoop pour les auditeurs. Il y a une très belle nouvelle ici pour notre ami Wassim Ben Larbi. Donc je lui laisserai peut-être l'annoncer, mais je voulais lui le féliciter, parce que grâce à lui, la vie triomphe avec l'arrivée d'une petite fille, je crois.
Oui, tout à fait. C'est pour ça que je porte le rose aujourd'hui. Donc je suis venu, parce qu'on en parlait en off, que j'honorais mon engagement aujourd'hui d'être dans cette émission, comme tous les matins d'ailleurs depuis des années avec nos auditeurs. Donc voilà, ma femme est en ce moment en train d'accoucher. Voilà, qu'elle me pardonne.
Vous saurez tout.
Voilà, je vais laisser quelques heures pour venir honorer mon engagement auprès des invités ce matin, et j'allais pas obliger l'un de mes collègues à me remplacer en dernière minute. Voilà. Donc, comment dire en tunisien, donc c'est une petite fille, c'est pour ça que je porte le rose et je l'attends avec impatience. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Juste une petite note, je disais, c'est la question qui est revenue le plus souvent depuis hier, depuis que j'ai annoncé votre interview, cette question des étudiants. Donc ça, vous avez été très clair, d'ailleurs beaucoup l'ont écrit, maintenant c'est clair. Par contre, bien sûr, on veut toujours plus, hein. Ça c'est connu, ce que j'appellerais moi le plus 1. Donc souvent les étudiants ont envie d'aller parce que c'est une première pour eux, c'est une nouvelle vie. Parfois, ils y vont avec les parents pour s'installer. Donc, si dans les mesures, on pourrait tenir compte d'un plus un, voilà, qu'ils soient accompagnés dans les mêmes conditions par un adulte, voilà. Je vous dis, c'est arrivé de plusieurs. Voilà. C'est comme ça souvent, ils partent.
Je peux pas garantir. Il faut à ce moment-là que le plus un soit.
Au moins que les étudiants.
Que le plus un soit vacciné, déjà, je pense que ça sera.
Voilà.
Voilà. Le message, vaccinez-vous. C'est le message que l'on passe à nos compatriotes en France. Et je sais que c'est aussi la clé ici pour réussir et triompher de ce virus et de ce fichu variant.
Merci beaucoup. Merci, merci d'avoir accepté notre invitation. Ce matin, Jean-Baptiste Lemoine, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe, des Affaires étrangères, des Français de l'étranger, du tourisme et de la francophonie. On parlera tourisme la prochaine fois peut-être.
Volontiers, parce que les Français
apprécient
beaucoup la destination Tunisie et on espère que grâce à tous les efforts qui vont être consentis, eh bien peut-être que l'arrière-saison pourra permettre à l'économie touristique tunisienne de repartir. En tous les cas, c'était le souhait du ministre tunisien. Et je sais qu'en France, de nombreux acteurs comme Laurent Habitbol, notamment, sont mobilisés en ce sens.
Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci beaucoup pour tous ceux qui envoient des messages de félicitations depuis tout à l'heure. Donc voilà, comme ça c'est dit en direct. Merci.